Bonjour, c'est l'heure de la pré-rentrée pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État préside ce matin les cérémonies d'hommage du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Une reprise en douceur après trois semaines plutôt discrète. 900 hectares de végétation ravagée dans l'Aude et l'incendie continue de progresser au sud de Carcassonne. Les pompiers sont inquiets car le vent va se lever. Nous ferons le point dans ce journal. L'autopsie du corps de Nora ne révèle aucune trace de coups ni de violence. La jeune fille de 15 ans avait été retrouvée mardi dans un ravin en Malaisie. Après 10 jours de disparition, la piste criminelle semble donc s'éloigner. En Argentine, le président Mauricio Macri multiplie les mesures pour enrayer la crise financière. Mais les Argentins ne sont pas convaincus. Retour sur un festival mythique à la fin de ce journal. Grégory Philips a rencontré Francis. Woodstock a changé la vie de ce Français, tombé amoureux de l'Amérique en ce mois d'août 69. Et puis nous irons à la rencontre des sœurs de la chapelle de la médaille miraculeuse au lieu du culte marial à Paris en ce 15 août où les catholiques célèbrent l'Assomption de la Vierge. Comment se porte la ferveur religieuse? On en parle avec votre invité Pierre Veil.
Et comment se porte l'Église catholique avec notre invité Christine Pedotti, qui est directrice de la rédaction du magazine Témoignages Chrétiens. Vous pourrez l'interroger vers 8h35. Appelez-nous dès maintenant au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Inter. Nom de code, opération Dragoon. Beaucoup moins connu que le D-Day en Normandie, le débarquement des Alliés en Provence a pourtant été déterminant. Le 15 août 1944, 450 000 soldats des forces américaines et françaises débarquaient dans le Var. Parmi eux, 260 000 hommes venus d'Afrique du Nord et subsaharienne. Ils composaient les bataillons africains. Ce jour-là, Michèle Abel ne l'oubliera pas. Elle avait 14 ans, vivait à Toulon. Elle raconte à Sophie Glotin cette journée particulière qui avait commencé la veille au soir.
Il y a eu l'alerte le 14 au soir. Et donc, sachant pas s'il allait y avoir des bombardements, parce que l'alerte annonçait des bombardements, on s'est installé avec les voisins qui sont passés par le mur pour venir avec nous dans le jardin. Et on a passé la nuit là, toujours sans savoir ce qui se passait. Et c'était une nuit merveilleuse. J'ai jamais vu autant d'étoiles filantes que cette nuit-là. Et le lendemain matin, donc, on a su, je sais pas comment, par qui. Alors là, ça a été comme les poumons qui s'ouvrent, qui respirent. Ouf, tu vois, même d'en parler, j'ai encore les larmes aux yeux, de se dire, ouf, ça y est, parce que il y a une chape qui était sur toi, mais quand ça s'est arrêté, voilà, tu respirais, puis on se disait, ça y est, c'est fini, quoi, on va être libre.
Et ceux qui sont morts pour la liberté seront célébrés ce matin à la nécropole de Boulouris, à Saint-Raphaël, entourés des présidents guinéens et ivoiriens. Emmanuel Macron y fera sa pré-rentrée politique, une reprise en douceur après trois semaines assez discrètes. Maxence Lambrecq.
L'Élysée insiste, ce n'était pas trois semaines de vacances, mais bien un temps de travail, une prise de recul sur l'actualité et quelques moments de détente en famille. Emmanuel Macron a eu quasiment tous les jours au téléphone son Premier ministre pour évoquer des arbitrages de la rentrée. Ils ont aussi échangé autour de la disparition du jeune Steve à Nantes, de la crise à Hong Kong, mais ni l'un ni l'autre n'ont publié de communiqué. Le président cherche dans cet acte 2 du quinquennat à prendre davantage de distance, laisser Édouard Philippe en première ligne. L'an dernier, son été avait été gâché par l'affaire Benalla et sa rentrée par la démission de Nicolas Hulot. Cette fois, l'horizon semble dégagé pour dérouler des messages. Le premier, aujourd'hui, sera très consensuel, formel. Hommage aux soldats africains qui avaient débarqué en Provence. Seule la photo sera politique. Nouvelle poignée de main avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure. François Hollande et les autres anciens présidents ont décliné l'invitation, mais eux deux aiment se retrouver. Emmanuel Macron soigne ainsi sa droite et Nicolas Sarkozy demeure sur la scène politique.
Et la rentrée politique, ce sera aussi la semaine prochaine, le début des universités d'été des partis. La France insoumise se retrouvera à Toulouse le 22 août. Le mouvement, lancé en 2016 par Jean-Luc Mélenchon, a vécu sa première déroute électorale aux européennes en mai dernier. Pour autant, Adrien Serrière, la France insoumise se prépare à une rentrée combative.
Il se voulait la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Les insoumis ne sont plus en mesure de disputer ce titre au Rassemblement national et ont même vu une grande partie de leur électorat rester chez lui en mai dernier, ou se déporter vers Europe Écologie Les Verts. Avec des voix en interne qui critiquent un virage à gauche trop prononcé et un manque de démocratie, la France Insoumise traverse sa première crise dans le sillage de la chute de popularité de Jean-Luc Mélenchon. Mais le leader du mouvement est reparti à l'offensive. On l'a vu au Mexique, dans le bureau du nouveau président, avec lequel il affiche une complicité qui va au-delà de l'entente idéologique. Une façon aussi de réaffirmer sa stature d'homme d'État. En début d'été, il avait reconnu des erreurs devant ses troupes et promis du changement. Le fidèle lieutenant Adrien Quatennens a été promu coordinateur numéro 2 des Insoumis. Lui, le partisan d'une ligne populiste, doit maintenant relancer la machine, repartir à la conquête de l'électorat des quartiers populaires, sur lequel repose l'avenir politique de la France Insoumise.
Il est 8h06, le journal. Corinne Audouin, Corinne, 900 hectares de végétation sont partis en fumée dans l'Aude, à Montirin, au sud-est de Carcassonne, et l'incendie n'est pas fixé.
Oui, le feu qui a démarré vers 16h hier est toujours actif. 500 pompiers sont sur place, ils attendent du renfort, car le vent va se lever dans la matinée. Les secouristes comptent principalement sur les moyens aériens, à commencer par les Canadairs. Simon Soubieux.
Oui, ils sont en ce moment 510 pompiers sur place, mais le feu est très difficile, voire impossible d'accès. Des moyens aériens vont donc être débloqués, vous l'avez dit. 5 Canadairs sont en cours d'acheminement, ils seront sur place d'ici quelques minutes. Le feu en attendant continue de se propager, 900 hectares totalement brûlés. C'est un incendie exceptionnel, disent les pompiers de l'Aude, le plus gros dans le département depuis plus de 3 ans. Une ferme a été brûlée, 22 personnes évacuées, les autres sont confinées chez elles. Heureusement, très peu d'habitations dans le coin. Le commandant des pompiers de l'Aude, Philippe Fabre.
C'est à la fois un bien parce qu'on a peu d'enjeux à protéger, mais également il y a peu de dessertes pour faciliter l'acheminement des moyens de secours. Dans tous les cas, ça génère un bilan qui est positif, c'est que pour le moment, à cette heure-ci, on n'a pas d'habitations qui ont été touchées par le sinistre et aucune victime.
Voilà, un bilan plutôt positif pour l'instant vu l'ampleur des dégâts sur la végétation. Les pompiers ont bon espoir de fixer rapidement le feu pour stopper sa propagation.
À l'heure actuelle, les moyens qu'on a sont conséquents. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que on puisse circonscrire le sinistre. À quel moment ce sera fait, c'est encore trop tôt pour le dire.
Il faudra également être attentif au vent, c'est ce qui fait peur aux pompiers et à la préfecture. On attend des rafales à plus de 60 km/h aujourd'hui dans le département.
Et c'est peut-être l'épilogue de ce drame, le corps de Nora Quarin, cette jeune franco-irlandaise de 15 ans qui avait disparu de son hôtel en Malaisie, ne porte aucune trace de coups ni de violence. Ce sont les premiers résultats de l'autopsie réalisée hier. Le corps de la jeune fille a été retrouvé mardi dans la jungle au fond d'un ravin. Bonjour Delphine Gotcho.
Bonjour.
La famille de Nora croyait à la piste criminelle qui semble donc s'éloigner aujourd'hui.
Eh bien non, pour l'avocat français de la famille de Nora, aucune piste ne peut à ce stade être encore écartée. Maître Charles Morel ne souhaite pas rentrer dans les détails des constatations médico-légales. La police malaisienne va communiquer dans les heures qui viennent, mais l'avocat tient à souligner pourquoi la fugue de l'adolescente de 15 ans est, selon sa famille, complètement improbable.
Je peux simplement vous rappeler la conviction qui a été affirmée par la famille de l'invraisemblance d'une sortie volontaire de Nora du bungalow. Pour des raisons très très précises. D'abord parce que Nora souffre d'holoprosencéphalie, qui est une malformation congénitale du cerveau, qui freine le développement du cerveau et qui donc fait qu'elle est très timorée, très craintive, et qu'elle est très dépendante de ses parents, et que donc elle n'a absolument aucune raison, et même toutes les raisons de ne pas avoir bougé seule de ce bungalow.
Alors pourquoi l'adolescente de 15 ans, craintive, introvertie, épuisée par 18 heures de voyage, aurait-elle quitté le bungalow dans lequel elle dormait avec ses parents, son frère et sa sœur, en pleine nuit pour aller dans la jungle? Selon nos informations, vous l'avez dit, pas de traces de coups ni de violences relevées lors de l'autopsie hier, réalisée en présence d'un enquêteur français. Des analyses toxicologiques sont toujours en cours, notamment pour expliquer la présence d'une hémorragie interne de l'intestin. Pour le médecin légiste, la mort de Nora remonterait à 4 jours avant la découverte de son corps, ce qui voudrait dire que l'adolescente est restée vivante pendant 6 jours après sa disparition.
Merci Delphine Gotcho.
En Argentine, le président annonce des mesures d'urgence pour enrayer la crise financière.
Oui, le revers aux élections primaires du président sortant, le libéral Mauricio Macri, affole les marchés. Le peso argentin a perdu 30% de sa valeur. Le chef de l'État a annoncé une batterie de mesures économiques, mais les Argentins n'y croient plus. Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Incertitude, inquiétude et impossibilité de se projeter, voici ce que ressentent les Argentins avec une désagréable sensation de déjà-vu, car la crise de 2001 est toujours bien présente dans les esprits. Aujourd'hui, tout comme il y a 18 ans, ils ne parlent que de la dévaluation de l'inflation, du chômage et de leurs angoisses. Juan, 32 ans.
Lundi, surtout, on a eu très peur parce que du jour au lendemain, on a perdu 30% de pouvoir d'achat. Et l'inflation augmente, le dollar augmente et nos salaires ne sont plus suffisants.
Pour freiner la dévaluation, Macri a annoncé par exemple la hausse du salaire minimum et des allocations familiales ou encore le gel du prix de l'essence pendant 3 mois. Mais pour Paola, 35 ans, le président Macri a tout faux.
Pour moi, ces annonces du président, c'est un geste désespéré pour convaincre les gens de voter pour lui. Sa priorité, c'est le marché international, alors qu'en fait, l'urgence du pays aujourd'hui, c'est le haut niveau de pauvreté, de chômage et la faim. Ça devrait être des priorités sur lesquelles il devrait agir immédiatement.
Malgré les annonces de Macri hier, la bourse a chuté de 6,5% et le risque pays a encore augmenté, prenant la deuxième place du classement, juste derrière le Venezuela. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Allez, sauf si vous vivez sur Mars, l'événement n'a pas pu vous échapper. Il y a 50 ans, débutait le festival le plus mythique de toute l'histoire du rock, n'est-ce pas, Pierre Veil? Woodstock,
bien sûr.
Sur la côte est des États-Unis, dans le nord de l'État de New York, 500 000 de spectateurs pour 3 jours de paix et de musique qui ont marqué à jamais ce qui y était. Notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips, a retrouvé Francis. En 69, il avait 22 ans. Depuis, ce Français vit aux États-Unis et il est retourné sur les lieux cette année.
Quand j'étais ici, là, à ce coin en bas de la route, à regarder cette colline pleine de gens, avec l'énorme scène qu'il y avait ici et les tours avec les haut-parleurs, j'ai eu l'impression d'arriver chez moi. Et pendant tout le festival, à part les moments de pluie, je me suis bien senti. C'était une ville qui campait ensemble. C'était des feux de camp qu'il y avait là-haut. Et la scène qui était là et tout, c'était presque hallucinant. Et ce qui a fait Woodstock, oui, bien sûr, la musique était fantastique, mais elle allait avec quelque chose d'autre. Et donc, tout le monde était assis là, écoutez, bonne franquette, les couples ensemble. C'était très calme, très harmonieux. À l'époque, ça a eu un impact sur ma génération. Et aussi peut-être sur nos parents, mais c'est parce que c'était le premier gros événement qui exprimait librement, visuellement et en musique, la cassure qu'il y avait avec la génération qui nous précédait. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, have you back?
Ah là là, je sais pas si c'est la clim, mais on a tous les poils dans le studio.
Joe Cocker.
Woodstock en musique et en images à retrouver sur franceinter.fr, le portrait de Francis. Et puis bien sûr en podcast, l'émission de Mishka Assayas tous les dimanches de l'été pour revivre ces 3 jours de musique, de paix et d'herbes aromatiques.
Il y avait un moment très fort dans ce festival que j'ai pas oublié. C'était Country Joe McDonald qui est arrivé sur scène. On était en pleine opposition à la guerre du Vietnam et il a fait reprendre par la foule 4 lettres, 4, oui, F-U-C-K, pour dire son opposition complète à la guerre du Vietnam. C'était impressionnant.
Merci Pierre Veil pour ces petits souvenirs. Allez, c'est un autre culte celui-là, le 15 août. Les catholiques célèbrent l'Assomption, la montée au ciel de Marie. Il y a le pèlerinage de Lourdes, bien sûr, mais certains préfèrent un endroit plus discret, la chapelle de la Médaille Miraculeuse, dans le 7e arrondissement de Paris. Reportage de Kathleen Comte.
Depuis la rue, on pourrait presque passer devant les portes de la chapelle sans la voir. L'édifice est discret, au bout d'une allée où sœur Adriana m'attend. Elle vient de Slovaquie. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle fait partie de la communauté, dont 5 au sein de la chapelle. Et comme chaque année, le 15 août, c'est un peu particulier.
Il y a 5 messes pour que les gens puissent assister à la messe. Et entre les messes, il y a le temps des prières, des recueillements.
La chapelle peut accueillir seulement 1000 personnes. Alors l'allée qui la relie à la rue est divisée en 2, avec un côté pour les fidèles qui peuvent ainsi suivre la célébration sur des écrans. Ce jour-là, toutes les religieuses sont également mobilisées.
Dans notre équipe, nous sommes à peu près 30 sœurs qui assurent le fonctionnement de la chapelle en collaboration avec les bénévoles. Et ce jour-là, beaucoup de monde est vraiment toute la journée sur la place pour que nous puissions accueillir les gens.
Une journée un peu particulière, donc, qu'Adriana attend avec impatience.
Ça fait du bien quand nous voyons beaucoup de monde qui viennent ici du monde entier et qui restent à la chapelle pour se recueillir. Et si notre chapelle est un peu discrète, ça me plaît aussi.
Avec 4000 visiteurs par jour en moyenne, la chapelle fait partie des sites culturels les plus visités de Paris.
Voilà, et pour ceux qui préféreraient passer ce jour férié à bouquiner, eh bien on termine vite les polars de l'été, car la rentrée littéraire approche avec 524 romans cette année. Eh bien c'est un record du plus faible nombre de sorties depuis 20 ans. Ilana Mor-Youssef.
Il y aura cet automne un peu moins de livres sur les tables des libraires. 524 romans contre 567 l'an dernier, selon le décompte du magazine professionnel Livre Hebdo. Cela fait 7,5% de moins et c'est sans doute une bonne nouvelle. Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition.
Les tables des libraires n'augmentent pas et le nombre d'auteurs ne diminue pas non plus. Je pense qu'il faut qu'ensemble, là encore avec les auteurs et les libraires, on prenne conscience globalement du phénomène et qu'on essaie de s'autodiscipliner. On attend effectivement toujours que ce soit l'autre qui commence. Il y en a qui commencent. Ces exemples-là, il faut peut-être qu'on les fasse mieux connaître pour que, effectivement, on aille vers plus de raisons dans la publication.
Ce régime minceur ne se fait pas au détriment de la littérature étrangère, dont le nombre de titres reste stable. C'est en littérature française que les éditeurs ont fait attention à ne pas surproduire, comme cela a été le cas ces dernières années. Stock, par exemple, publie 10 titres contre 13 l'an dernier. Albin Michel, 13 contre 16. Pour les auteurs, c'est sans doute une bonne nouvelle. Cela signifie que leurs livres seront mieux accompagnés.
Et si vous voulez tout savoir sur les lectures de la rentrée, c'est à retrouver sur franceinter.fr, un zoom sur toutes les femmes de la rentrée littéraire.
C'était le journal de Corinne Audouin. Merci Corinne. La météo avec Stéphanie Fromentin. Stéphanie, la matinée est bien maussade.
Oui, elle se déroule sous une liturgie de nuages, avec en prime quelques ondées. La majeure partie de l'Hexagone débute donc la journée sur une tonalité plutôt grise. Seul le massif pyrénéen, le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la région Rhône-Alpes resteront illuminés. Cet après-midi, le soleil va continuer d'encenser généreusement le sud et le sud-est, et si la couverture nuageuse restera compacte près des frontières du nord et du nord-est, partout ailleurs, il réussira à convertir le ciel qui laissera passer quelques rayons entre des cumulus inoffensifs mais résistants. Le vent donne aussi la messe aujourd'hui, généralement soutenu avec des rafales jusqu'à 50 km par heure en général, alors que Mistral et Tramontagne soufflent encore jusqu'à 70 km par heure.
Les températures sont de nouveau estivales.
Alors Mercure entame un pèlerinage vers la douceur avec 13 à 18 degrés du nord au sud, 17 à 21 près de la Méditerranée. Cet après-midi, c'est encore un peu juste pour la saison. 21 et 27 degrés en général, 28 à 33 dans le sud et le sud-est. Il fera 24 degrés à Les 15 dans le Puy-de-Dôme, comme à Saint-Août dans l'Indre. 23 à Saintes en Charente-Maritime, 21 à Vierge en Seine-Maritime, mais 29 à Marie dans les Alpes-Maritimes, un département qui n'offre que 26 degrés à une autre de ces villes. Amen.
Stéphanie Fromentin. Voilà. Stéphanie Fromentin, la météo, merci beaucoup.